La RATP, c'est 45 000 salariés en région parisienne, des conducteurs de bus, du métro, du RER, des ouvriers à la maintenance, des techniciens, le secteur administratif. Et les transports en commun sont le seul grand moyen de déplacement de la population, en particulier des travailleurs. Le matin, des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs du nettoyage et du ménage précèdent les travailleurs de l'industrie en équipe ou pas, ceux des hôpitaux, les employés de bureaux, du commerce et tous les autres secteurs d'activité. 12 millions d'habitants vivent en région parisienne et chaque jour, ce sont 5 millions de travailleurs qui empruntent les transports en commun. Beaucoup vivent à la périphérie, dans des banlieues parfois éloignées, parce que le coût du logement et même les possibilités de se loger relèguent beaucoup de travailleurs dans de grandes villes populaires, comme Massy, Argenteuil, Sarcelles, Saint-Denis, Cergy. Leur trajet commence par le bus, puis le RER, puis le métro. Aller et retour, cela peut faire 3 heures dans les transports. Patronat et gouvernement ont été contraints de développer des transports en commun, car tous les travailleurs ne peuvent pas se rendre au travail en voiture ou en vélo. Mais ces transports en commun sont insuffisants et bondés, ce qui fait qu'avec une épidémie, les conditions de transport deviennent un problème sanitaire et économique. Jusqu'à la date du confinement du 16 mars, les voyageurs se sont entassés dans des transports sans désinfection, les transformant en lieu idéal de propagation du virus. Depuis février, l'épidémie du coronavirus était une réalité pour les travailleurs de la RATP, en permanence au contact du public durant des heures, des journées, dans des lieux fermés, mal aérés. La question s'est tout de suite posée, comment se protéger?
La direction s'est d'abord contentée de mettre des affiches et notes de service sur les gestes barrières, sans plus d'explications. La distribution de bouteilles de gel hydroalcoolique aux conducteurs de bus, de métro, agents de station, s'est faite à partir du 27 février. Beaucoup de ces gels avaient une date de péremption au 28 février. La distribution a été molle et laborieuse. La direction minimisait l'épidémie et disait qu'il ne fallait pas créer de panique, renvoyant le problème de la sécurité au travail sur la seule responsabilité individuelle des travailleurs et du respect des gestes barrières.
Alors comme partout dans le pays, on a expliqué aux ouvriers de la maintenance de la RATP qu'il ne fallait pas porter de masque, que ça ne servait à rien. Il y a même des collègues qui, de leur propre initiative, s'étaient munis de masques et qui se sont vus menacés de sanctions parce que c'était des sales égoïstes, où ils sortaient ce masque, il fallait les laisser aux infirmières. Donc il fallait y aller sans masque et puis même sans gel hydroalcoolique. Hein, il a fallu insister pour avoir notre dose de gel hydroalcoolique. Les agents de station, les conducteurs avaient eu une toute petite dose, très parcimonieuse. Mais nous, on voulait pas nous en donner, sous prétexte que on était des ouvriers, donc on avait les mains sales, et donc du coup on se lavait les mains avec du savon et que c'était vachement bien, qu'il n'y avait pas besoin de gel hydroalcoolique en plus. Il y a eu des équipes qui se sont mobilisées pour avoir leur toute petite fiole de gel hydroalcoolique et ça a été très laborieux. Les équipes dont je parle, c'est la maintenance itinérante, elles interviennent dans les stations, des fois elles prennent le métro pour dans le cadre de leur journée de travail. Donc la distanciation sociale, tout ça, c'est complètement illusoire pour eux. Donc ils ont travaillé pendant des semaines dans le métro parisien, en contact avec les voyageurs, sans masque, sans gel hydroalcoolique, sans rien, et en plus avec des leçons de morale de l'encadrement qui nous expliquait par A plus B comme quoi il fallait rien de tout ça. Donc ça a été très mal pris et la situation de maintenant où on est sanctionné si on met pas le masque, où tout ça c'est obligatoire et où la direction prétend qu'elle a toujours fait bien, qu'il n'y a jamais eu de loupé de sa part, et ça laisse quand même un pas mal d'amertume chez les gens.
Dès le 2 mars, alors que des conducteurs du métro refusaient de rouler sans masque et ont droit de retrait, la direction a d'abord sorti des masques FFP2 avant de les ranger de nouveau. Se rendant compte que ça allait faire boule de neige, elle a tout de suite attaqué les conducteurs en droit de retrait et les a pointés en absence injustifiée, code 800. Le 3 mars, on apprenait dans la presse que la RATP avait un stock de masques pour 10 semaines, mais que reprenant la thèse du gouvernement de l'inutilité des masques, elle ne les distribuerait pas. Ces masques seront ensuite en partie réquisitionnés pour les soignants. Le même jour, une cinquantaine d'agents de sécurité ont exercé un droit de retrait durant plusieurs heures. Un de ces agents de sécurité, âgé de 35 ans, sera un des premiers agents de la RATP à décéder du Covid. Il avait dénoncé leurs conditions de travail à plusieurs dans des véhicules d'intervention et dans des locaux exigus, sans aucun masque. Pour ne pas tout détailler, il faut juste rappeler que la direction s'est en fait opposée à toutes les demandes. Elle a refusé les masques jusqu'à ce que le directeur général de la santé le préconise à partir du 8 avril, donc très tardivement. La désinfection imparfaite et limitée des bus et la montée par l'arrière dans le bus ont été décidées le 20 mars. Durant tout un temps, l'exposition des travailleurs au virus a été maximale. La responsabilité de la direction est complète, ou plutôt l'irresponsabilité. C'est sous une certaine pression de l'opinion, des travailleurs et des militants syndicaux qu'elle a mis en place des protections et tardivement, même si cela a évité le bilan terrible, par exemple des bus de Londres, avec plus de 20 morts. Il y a eu quand même plusieurs morts imputées au Covid.
À la maintenance, le lendemain de l'annonce du confinement, le 17 mars, un certain nombre d'équipes ont refusé de continuer à travailler comme si rien n'était. Il y avait un certain nombre d'entre nous qui avaient déjà eu les symptômes de la maladie, certains avaient été testés positifs, donc le danger de cette épidémie commençait à devenir beaucoup plus concrète et les gars voulaient qu'une majorité d'entre nous restions à la maison. Pour ça, il aurait fallu organiser le travail différemment, se contenter de faire les urgences et puis même arrêter complètement certaines activités complètement inutiles compte tenu de la situation. Notamment, par exemple, les chantiers qui sont programmés de longue date et puis qui durent des semaines, ça pouvait être suspendu, un peu comme les chantiers du bâtiment. Ou alors, par exemple, l'activité qui consiste à dépanner la vente des billets ou les tourniquets, c'était beaucoup mieux de laisser en accès libre le métro que le voyageur ne touche à rien plutôt que de lui faire acheter des billets en tripotant des écrans tactiles ou en touchant les tripodes. Mais ça a été pas acquis dans un premier temps. Donc la direction, elle a tenu absolument à maintenir le métro payant pendant toute la période de confinement, ce qui est scandaleux. Tout ça ensuite pour rembourser les titres de transport. Et donc du coup, il y a malgré tout une minorité d'entre nous qui sommes restés dépanner ces trucs-là, mais quand même la majorité ont obtenu de rester à la maison. Dans d'autres secteurs, la direction voulait continuer la production normale. Par exemple, les chantiers d'escaliers mécaniques, des grosses révisions générales, elles ne voulaient pas l'arrêter. Donc les gars, là, ils ont pris une décision assez radicale, c'est que ils sont carrément pas allés au boulot, ils sont restés confinés chez eux sans demander rien à personne. Les chefs les ont appelés, leur disant « mais qu'est-ce que vous faites, c'est pas bien ». Et puis le 20, il y a quelques gars qui sont allés à l'attachement clarifier leur situation, comme leur avait demandé leur chef, en disant « nous, on reste chez nous, il est hors de question qu'on continue à faire ces trucs, et l'urgence, c'est le confinement ». Donc partout, ça a été une bagarre. Dans les ateliers de réparation de trains, c'est pareil. Ce qui a été acquis pendant quelques semaines, ça a été remis en cause plus tard, au bout de trois semaines, au bout d'un mois. Ils faisaient revenir les gars pour faire des trucs qui, de notre avis, étaient pas nécessaires. En fait, les directeurs, les chefs de centre, ils sont omnubilés par les résultats, par ce qu'ils appellent la production, même si ça n'a pas trop de sens quand on parle de services de maintenance du métro. Mais pour eux, ils ont été en quelque sorte éduqués au fait que tout ça, c'est du pognon et ils ne voulaient pas en perdre. Voilà, et c'était ça la priorité.
Et oui, les travailleuses et travailleurs de la RATP ont été acculés à prendre en main le seul capital qui est le leur, leur santé. Au bus, les premières qui ont osé se mettre en droit de retrait, comme trois machinistes de Montrouge le 3 mars, ont été menacées de sanctions, alors que la direction n'avait que le gel et les gestes barrières comme mesure. À la demande de Lingette, il nous était répondu qu'on peut amener les nôtres. La direction a même refusé qu'on utilise la vitre anti-agression comme protection, qu'on mette la demi-porte avant pour s'isoler un peu, jusqu'au 16 mars. Jusqu'au 17 mars, elle s'est acharnée à maintenir la vente des tickets à bord, disant qu'il n'y avait pas de risque. Et aujourd'hui, elle prétend que ce sont les tracts qui sont un vecteur de propagation du virus. Elle insiste sur l'extrême importance du masque, dont elle disait qu'il n'est pas nécessaire, non sécuritaire et anxiogène. La direction a aussi caché les nombreux cas d'arrêt maladie Covid, non testés, donc non avérés, selon elle, donc sans faire les enquêtes cas contact, et encore moins des mises en quatorzaine prévues au protocole de la médecine du travail. Ce sont les travailleurs, entre eux, qui s'informaient de la santé de tel ou tel camarade de travail.
Alors, à la finale, il y a bien eu des services minimums d'organiser à la maintenance, hein, tant dans la maintenance itinérante que dans les ateliers de réparation des trains, sans doute en partie grâce à la mobilisation des ouvriers, mais aussi parce que à partir du moment où l'État s'est mis à accorder le chômage partiel à la RATP, ce qui n'était pas le cas au début, ça devenait plus confortable pour la direction, parce que quand même, depuis le début, ce qu'on sentait, c'est que c'était très... Ils ne supportaient pas de nous payer à rester à la maison. Et donc, le fait que c'est l'État qui nous paye, ça les a quand même pas mal décontractés sur ce sujet. Après, ils ne sont jamais restés autant minimum que nous, on aurait voulu. Mais quand même, la part de la mobilisation des salariés, elle a compté dans bien des endroits.
7000 travailleurs, des techniciens en particulier, ont été mis en télétravail et cela a été laborieux. Il y a d'ailleurs un certain nombre de travailleurs qui n'ont pas pu passer en télétravail et que la direction a obligé de venir au bureau parce que chez eux, par exemple, il manquait du débit pour Internet. Pour ceux en télétravail, beaucoup n'avaient pas de pièces supplémentaires pour se faire un bureau chez soi, même pas de chaise de bureau ni un écran additionnel. Ajoutez à cela le suivi pédagogique pour les enfants, la préparation des repas, entrecoupé de visioconférences avec la direction, le travail est devenu deux journées en une. Après plus de 50 jours de télétravail, nombreuses plaignent de douleurs de dos et au cervical. La direction a aussi refusé les congés pour garde d'enfants quand le conjoint était en télétravail. Pire, certains à qui ils avaient été accordés ont été rappelés au bout d'une semaine pour être mis sur le télétravail.
Quant aux travailleurs du nettoyage, ce sont souvent de grandes entreprises qui rognent sur tout. Sur les effectifs, sur le matériel, ils embauchent beaucoup en intérim ou en CDD. Et il y a peu d'organisation des travailleurs. En toutes petites équipes, éloignées les uns des autres, dispersées en fait sur tous les sites de la RATP. Ce sont souvent les militants syndicaux agents de la RATP qui sont intervenus pour qu'ils aient un minimum de protection. Comme les gants, les masques, les lunettes, les tenues de travail, car au début, certains travaillaient avec des vêtements personnels. Pour les milliers de prestataires des chantiers sur le réseau, nombreux ont eu leur mission arrêtée et en chômage partiel depuis plus d'un mois. Certains se sont retrouvés en fin de contrat dans leur entreprise de prestation et donc pour eux, c'est Pôle emploi.
En toute conscience, il fallait défendre l'idée « pas de protection, pas de travail ». Des militants, des syndicalistes l'ont fait, mais on le voit, la pression a été forte et enfermé chacun dans un dilemme entre menaces de sanctions et de conflits avec la direction sur le droit de retrait et envie de rendre service aux soignants, aux caissières de supermarchés à transporter. Néanmoins, comme nous l'avons dit, cette volonté de défendre notre peau a été capitale pour qu'un minimum de mesures soient prises. Par exemple, la CGT prenait le retrait du travail par tout moyen possible, allant du droit de retrait à l'arrêt de maladie. La faiblesse de cette position, c'est qu'elle isolait souvent à domicile les travailleurs habituellement grévistes et combatifs des autres travailleurs. Quant au droit de retrait, c'est une confrontation plus difficile encore que la grève, car il est contesté par la direction qui te remet une mise en demeure de reprise immédiate du travail, s'appuyant sur son prétendu respect des préconisations de la médecine du travail et du ministère de la Santé. Le pointage en code d'absence injustifié non payé bloque aussi sur les mobilités internes et l'accès à tout concours interne. Et la direction a été parfois jusqu'à la procédure disciplinaire. C'est alors aux salariés d'attaquer au prud'homme. C'est donc en grande partie illusoire d'y avoir recours individuellement. S'il est utilisé massivement, ça revient à créer un rapport de force. Et là, autant dire que la grève ou le débrayage, face à une situation jugée dangereuse, ne nous coûterait pas plus cher.
L'incurie de la direction de la RATP, en ce qui concerne la protection des travailleurs, n'est plus à démontrer. Son empressement à répondre aux besoins du patronat a fait qu'avec le déconfinement et l'afflux de voyageurs, la crainte était grande. Comment faire respecter les gestes barrières dès lors qu'il y a affluence de voyageurs, déconfinés, obligés d'aller travailler. Avec le déconfinement, la direction veut retrouver un niveau maximum de service. Nous sommes donc plus nombreux que pendant le confinement dans nos locaux, vestiaires, terminus, où parfois nous ne pouvons pas aller car ils sont exigus et qu'il y a un nombre maximum de personnes autorisées. Dans les bus, les prises de service en ligne ont été remises en place, ainsi que les services en deux parties, avec une grosse coupure de plusieurs heures que certains passent au dépôt. Au métro, les conducteurs changent de nouveau de rame en cours de service. La direction répond à toutes ces situations par « vous avez les masques, les lingettes et la désinfection devenue nébulisation depuis le 11 mai seulement, mais une fois par jour », d'après les dires de la direction. Par exemple, au métro, on n'a pas de liste des trains ni d'affichage de la désinfection. On ne peut pas le vérifier. Nous le savons, tant que les travailleurs ne contrôlent pas, ne peuvent pas vérifier et ne peuvent pas décider, ils ont raison de ne pas faire confiance et de se sentir en danger, car la direction ment, trompe en permanence.
Tout le monde s'accorde à dire que cette crise a mis en évidence les inégalités, les misères, l'aberration du fonctionnement de ce système. Nous, révolutionnaires communistes, sommes les premiers à le dénoncer. Mais nous ne voulons pas en rester là. En tant que militants ouvriers, nous avons appuyé les positions qui allaient dans le sens de la défense immédiate sanitaire des travailleurs. Pour autant, nous nous sommes efforcés de montrer à quel point, si c'est nécessaire, c'est aussi dramatiquement insuffisant. Et surtout, dans ce monde pourri, il n'y aura pas de porte de sortie juridique, astucieuse, individuelle. Seule la grande faucille de la conscience et de la lutte collective peut tailler une ouverture pour sortir de la jungle capitaliste.